Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Céleste Albaret dans la chambre de Marcel Proust au moment où l'écrivain se relève d'une terrible crise d'asthme. La jeune femme a vite compris l'attitude à tenir dans ces circonstances. Rester debout, attendre. D'une manière plus générale, elle a observé une façon d'être qui a conquis ce reclus qui est devenu son maître, au point que ce dernier a fait d'elle sa seule domestique. Seconde partie, le bourgeois et la domestique. Tout ce protocole d'un autre âge disparaît pourtant lorsque Proust se fait apporter le courrier. Tous les jours, selon le même imparable rituel, Céleste apporte quantité de lettres en même temps que le café et le croissant. Proust commence par boire. Il ne s'empare du petit tas d'enveloppes déposées à côté de lui que lorsqu'il a fini son petit déjeuner. Il prend son temps. Avant de les décacheter d'un coup sec du doigt, il les tourne et retourne. Il veut savoir qui est l'expéditeur, comment l'adresse a été écrite, puis il en fait la lecture à Céleste. Durant ces moments, qui peuvent durer des heures, la domestique reste debout, à mi-chemin entre la porte et le lit. Pas question de s'asseoir. Mais elle ne ressent aucune fatigue, bien au contraire. Dans ces instants, elle a conscience de jouir du privilège insigne, de partager l'intimité de l'écrivain. Pour un temps, tel Cendrillon qui tend ses haillons pour revêtir une robe de bal, elle devient non seulement confidente, mais complice de Marcel Proust. Il lui demande son avis sur tout. Il lui livre ses impressions les plus secrètes sur telle ou telle personne. Depuis qu'il la connaît, elle a eu le don de le faire rire comme jamais. Elle l'étonne par ses traits d'esprit, au point qu'il arrive parfois à Proust de lui dire
« Ah, cela c'est magnifique, Céleste, je le mettrai dans mon livre. »
Durant ce bal magique, où un bourgeois et une domestique se livrent à un enivrant pas de deux, celui qu'on ne croyait intéressé que par les ducs se nourrit de l'esprit même du peuple, à travers Céleste. Pour elle qui a grandi dans la campagne, c'est un conte de fées. 8 années, jour après jour, sans en manquer un seul, cela fait beaucoup plus que les 1001 nuits. Jour après jour, l'écrivain se livre à cette femme qui a appris à l'écouter, à l'aimer, à l'admirer. Elle devient le miroir où il contemple son œuvre. Dans ses mémoires, elle revient souvent sur cette sensation que Marcel Proust testait ses pages en elle avant de les écrire. La part mondaine, celle qui apparaît dans la recherche, est le sujet de son œuvre. Mais pour Céleste, il est évident que Proust trouve en elle une terre vierge, propre à faire l'expérience de sa capacité littéraire à émerveiller les âmes les plus simples. Les années de guerre passent. En 1919, Marcel Proust reçoit le prix Goncourt pour son roman « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Céleste est fière d'avoir rencontré l'écrivain au moment même où il a commencé son chef-d'œuvre. Lui-même sait que les deux destins sont intimement liés. La publication de l'ouvrage a été l'occasion d'une série d'épisodes comiques où Marcel Proust s'est trouvé bien vengé de ceux qui jusque-là le prenaient pour un dilettante. Parmi eux, il y a André Gide, l'auteur des « Nourritures terrestres » et celui qui a reçu en 1912 le manuscrit du côté de chez Swann. Il l'a fait renvoyer à son auteur après s'être exclamé
« Notre maison publie des œuvres sérieuses ». Il est hors de question qu'elle puisse éditer une chose comme celle-ci, qui est de la littérature de dandy mondain.
Les années passant, les appuis de Marcel Proust sont de plus en plus nombreux dans le monde littéraire. On prend la mesure de son talent. Lorsque Les jeunes filles en fleurs est publié, on accuse ses anciens détracteurs, dont Gide, d'avoir fait preuve de cécité intellectuelle. Céleste, qui a toujours pour fonction, entre autres, de livrer les courriers, va devoir porter un billet de Proust à Gide. Lorsqu'elle le rencontre, elle ne peut réprimer un sentiment de répulsion. Il y avait quelque chose d'assez indéfinissable que je n'aimais pas dans son aspect comme dans son visage et dans son regard. Quelque chose de pas vrai, une fausse sincérité, ou plutôt une sorte de sincérité obligatoire. Revenu boulevard Haussmann, Céleste rencontre à Marcel Proust. « Ce monsieur Gide ne me plaît pas. Il a l'air d'un faux moine. » Proust éclate de rire. Le trait est criant de vérité. Appuyant sa tête sur la paume de sa main, il regarde Céleste.
« Ah, Céleste, comme je vous aime !»
Céleste Albaret va de fait nouer avec Proust un lien qui ne trouve de comparaison nulle part dans l'histoire de la littérature. Céleste se sent tantôt la mère de l'écrivain, tantôt sa petite fille quand il la réprimande. On parle comte, comtesse, ducs et duchesses. On parle de l'enfance, de la vie, de la mort et de Dieu. Céleste, dans ses mémoires, tente de définir l'esprit qui caractérise l'écrivain. Elle se refuse à faire de lui ce représentant de la bourgeoisie de salon que nous associons volontiers à une société de snobs plus ou moins superficielle. Non, Proust n'est rien de tout cela. Sa vocation, sa mission, c'est de rapporter la vérité de ce qu'il a vu dans ces milieux. Et plus encore, face à cette vérité qui, il le dit souvent à Céleste, est le but de son écriture, il se pose, dit-elle, en moraliste. Le mot est étonnant, mais Céleste Albaret étaye son idée. Jamais elle n'a vu son Monsieur Proust, autrement que comme un observateur tantôt amusé, tantôt outré. Proust moraliste, on peut le deviner lors de cette observation qu'il fait à Céleste après une visite d'André Gide.
« Voyez-vous, ma chère Céleste, à mon avis, un jour on s'apercevra qu'André Gide est l'homme qui aura fait le plus grand mal, moralement, à notre jeunesse. »
Si jamais Proust ne s'est posé en parangon de vertu, il n'en montre pas moins un détachement des gloires de ce monde qui est la marque sinon des ascètes, du moins des sages. Lorsque Céleste, haletante, bouscule tous les meubles pour atteindre la chambre de l'écrivain et lui annoncer qu'il a reçu le prix Goncourt, il la regarde puis d'un air détaché lance simplement
« Ah !»
Hors de ses rares saillies dans un quotidien marqué par la répétition, la souffrance et l'ennui, les visites des amis constituent des points de repère réguliers. Elles se font de plus en plus rares. Dès 1919, Proust est souvent hors d'état de recevoir du monde. Après la guerre, seuls ceux que Céleste appelle « la vieille garde » se présentent boulevard Haussmann pour passer de longues heures avec l'écrivain. Il y a Reynaldo Hahn, le fidèle des fidèles, l'ami de toujours. Reynaldo Hahn qui, comme Marcel Proust, s'est porté volontaire pour servir dans l'armée pendant la guerre de 14. Si Proust, du fait de son état, n'a pu gagner le front, Hahn, lui, s'est illustré par son courage. Ils aiment à se souvenir aussi de ce jour où Marcel a entrepris de monter l'escalier des tours de Notre-Dame malgré son asthme, tandis que Reynaldo à ses côtés lui chantait des extraits du Tannhäuser de Wagner. Ces dispositions à l'héroïsme étonnent de la part d'un homme qui, si l'on en croit Céleste Albaret, utilisait une cinquantaine de serviettes de bain pour chaque toilette, pour ne pas risquer d'abîmer la peau de son visage par le frottement répété d'une seule. Le glas va sonner pour l'écrivain lorsque sa tante, sans l'en avertir, décide de vendre l'immeuble du boulevard Haussmann qui appartenait jusque-là à sa famille. Après plusieurs recherches infructueuses, on se décide pour déménager dans l'immeuble occupé par la grande tragédienne Réjeanne, rivale de Sarah Bernhardt et amie intime de Proust. Mais la mort de l'actrice et l'humidité dégagée par les arbres qui longent ce bâtiment proche de l'avenue Foch contraignent à un nouveau départ. L'écrivain emménage rue Hamelin, fait clouer des tapis sur les murs pour étouffer le bruit et donne une pension à la locataire du dessus pour qu'elle condamne les chambres situées au-dessus de la sienne. L'hiver venu, on allume le feu, mais la fumée le rend malade. Céleste est contrainte de ne plus utiliser la cheminée. Lorsque Marcel Proust a froid, il demande qu'on lui jette un tricot sur les épaules. Puis, toujours allongé dans son lit, le tricot ayant glissé au fil des heures, il en demande un autre, puis un autre. Pas question qu'il fasse l'effort de se redresser pour enlever ceux qui sont tombés. La rue Hamelin a été choisie comme appartement transitoire. Mystérieusement, Proust répète à Céleste régulièrement :
« Nous ne faisons que passer ici, Céleste. »
La femme de chambre sait que son monsieur Proust est en train de vivre ses derniers mois. L'année 1920 commence rue Hamelin, nous dit Céleste, dans un froid de caveau. Proust, qui travaille à son manuscrit de « La prisonnière », est pris d'un désir impérieux de faire jouer une musique qu'il considère comme le sommet de l'art, le quatuor de César Franck. À 1h du matin, le mari de Céleste, Odilon, qui est toujours le chauffeur de Proust, va chercher les musiciens. Ils entrent dans l'appartement, qui a déjà l'air d'un tombeau. On s'assied, on se prépare. Proust est étendu sur son fauteuil de repos. Il écoute, les yeux fermés. Il était tout transfiguré et illuminé de l'intérieur, comme lorsqu'il me parlait du petit pan de mur jaune dans le tableau de Vermeer. C'était avec de telles choses qu'il parvenait à nourrir en lui la flamme de la vie. Et il ne l'entretenait que pour son œuvre qui le consumait. Pendant les mois qui lui restent à vivre, Proust ne s'exprime plus que pour signifier à Céleste qu'il lui est urgent d'achever son œuvre. Il ne sort plus.
« Je n'ai pas le temps, Céleste. Je manque de temps. Nous avons trop parlé, j'ai perdu du temps. »
Combien de fois n'entend-elle pas ces mots? Un jour, il lui dit
« Céleste, le temps me presse. »
La jeune femme lui demande alors pourquoi.
« Céleste, je vais mourir. »
Puis un jour de l'année 1922, jour que Céleste, fait étonnant, est incapable de préciser, Marcel Proust l'appelle. Elle entre dans la chambre et est saisie par quelque chose d'inhabituel, d'incroyable. D'abord, l'écrivain n'a pas fait ses fumigations. Son visage lui apparaît pour la première fois dans cette radieuse pâleur qui est celle qu'on lui voit sur certains tableaux. Nouvelle surprise, Marcel Proust, sans toucher à son café, lui adresse la parole, lui qui ne disait jamais un mot avant d'avoir fini son petit déjeuner.
« Bonjour Céleste, il est arrivé une grande chose cette nuit. »
Céleste, bouche bée, à peine à articuler un mot, puis apeurée, elle lance sur le ton de l'alarme. « Monsieur, que s'est-il passé ?»«
Eh bien, ma chère Céleste, je vais vous le dire. C'est une grande nouvelle. Cette nuit, j'ai mis le mot « fin ». »
Puis radieux, il s'exclame.
« Maintenant, je peux mourir. »
L'année 1922 est une longue agonie. Tout commence en avril parce que Céleste croit être une petite grippe. Mais respirer devient bientôt pour Marcel Proust une épreuve de chaque seconde. Son frère Robert, éminent médecin, tente de le soigner, en vain. L'écrivain ne réclame que la présence de Céleste.
« Vous me fermerez les yeux »,
lui a-t-il souvent dit. C'est elle à présent qui l'aide à poser les dernières corrections sur son livre. Elle a inventé un système de feuillets qu'elle colle en haut des pages et qu'elle rabat ensuite. Certaines corrections donneront des cheveux blancs aux éditeurs. Elles s'étalent sur des papiers qui, dépliés, peuvent atteindre jusqu'à 1,50 m. Le soir du 17 novembre, c'est l'agonie. Proust est saisi de panique. Il croit voir
une grosse dame noire
postée au fond de sa chambre. Céleste est épouvantée. On appelle Robert Proust et un autre médecin. Céleste se tient dans l'entrebâillement de la porte. Elle pleure.
« Ah, Céleste, Céleste !»
s'écrie Marcel Proust. Je suis revenu dans la chambre et je me suis tenu à côté du professeur Robert Proust. Il n'y avait plus que nous deux. Monsieur Proust ne nous quittait pas des yeux. C'était atroce. Nous sommes restés ainsi 5 minutes. Puis tout à coup, le professeur s'est avancé et penché doucement sur son frère et il lui a fermé les paupières alors que ses yeux étaient toujours tournés vers nous. À 4h30 du matin, Marcel Proust a rendu son dernier soupir. Titubante d'épuisement et de douleur, Céleste n'a plus la force d'essuyer les larmes qui coulent sur ses joues. Elle sait déjà que jamais elle ne pourra oublier celui à qui elle a donné presque 10 ans de sa vie. Des années plus tard, Céleste, qui toujours portait au doigt une opale que Proust lui avait offerte, s'aperçoit qu'elle l'a perdue. Elle est au désespoir. Elle s'en remet aux saints et bien entendu à saint Antoine, saint patron des objets perdus. Elle invite sa fille Odile à déjeuner, prépare une salade. Alors qu'Odile commence à manger, elle pousse un cri. Elle a failli se casser une dent. Elle crache quelque chose dans sa main. C'est l'opale que Céleste cherche depuis des semaines. Ainsi, dans les moments où elle était tentée de l'oublier, il se rappelait toujours, d'une manière ou d'une autre, à son bon souvenir. Jamais il ne m'a abandonnée. L'image que je garde de lui dans mon cœur est la plus belle de toutes et le plus beau des souvenirs. Il y est magnifique comme il le fut toujours, prince parmi les hommes et prince des esprits. C'est la fin de ce double épisode consacré à Marcel Proust et Céleste Albarès, sa femme de chambre. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.